Madame du Barry. Comme certains noms, n'est-ce pas, en quelques syllabes, font revivre tout un monde.
Aujourd'hui, à propos de la sortie du film de Christian Jacques, Madame du Barry, une évocation d'André Castelot.
En 1954 déjà, Jeanne du Barry triomphait au cinéma. Un film pittoresque, une grande épopée, avec Martine Carole.
Cette merveilleuse aventure, qui fit d'une fille de tripot une quasi-reine de France, revit en ce moment sur les écrans parisiens. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le cinéma n'a pas triché. Sans doute l'historien pourrait-il ici faire quelques remarques sur la cour de Versailles vue par les auteurs du film, mais le personnage même de la du Barry est à l'écran, à peu de choses près, ce qu'il fut dans la réalité.
Alors, à peu de choses près, disons que ce film de Christian Jacques tient bien plus du mythe que de la réalité historique. La comtesse du Barry est une poupée russe. Et derrière la grande poupée d'apparence, on en trouve une autre,
Jeanne.
Et puis une autre, et puis encore une autre, et ainsi de suite.
Jeanne !
Une femme mystérieuse et insaisissable.
Jeanne ! Encore devant un miroir.
Cette nouvelle série va donc tenter de s'approcher au plus près de cette figure légendaire du XVIIIe siècle. Qui es-tu, Jeanne Bécu ?
J'étais, pour me servir de l'expression de Lebel, un nouveau soleil levé sur Versailles.
Pendant deux siècles, on a raconté beaucoup de sottises sur Jeanne du Barry. D'abord, parce que la légende noire d'une courtisane vénale et vénéneuse qui aurait débauché le bon roi Louis XV a longtemps dicté le récit de sa vie.
Le roi a 64 ans. Et cette fille est une infirmité de vieillesse dont nous ne saurions guérir.
Ensuite, parce que nous manquons de sources, certains pans entiers de sa vie ne sont pas documentés. Et ce vide a laissé place à tous les fantasmes.
Elle est passée par tous les lits de Paris.
Mais depuis trois ans, l'historien Emmanuel de Varesquiel a enquêté d'arrache-pied pour nous offrir un portrait plus juste de Jeanne du Barry. En sa compagnie, donc, enrichie par d'autres historiens et historiennes du XVIIIe siècle, nous allons explorer ce destin hors norme, derrière lequel, malgré le faste et l'ambition, se cache peut-être une immense solitude. Voici l'histoire méconnue d'une jeune femme jugée coupable de tout.
Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut se demander si l'on doit rendre Madame du Barry responsable des faiblesses coupables d'un roi vieillissant qui ne sut résister à la folle passion qu'elle lui avait inspirée.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jeanne du Barry, faste et solitude. Premier épisode, la bâtarde.
Le roi a une nouvelle maîtresse et personne ne la connaît.
Quoi, ce n'est pas l'une d'entre nous? Si c'est vrai, c'est un scandale!
Nous ne permettrons pas que le roi se prostitue.
De qui s'agit-il?
Madame la comtesse du Barry!
Songez donc, mon ami, à la brillante dessinée que vous pouvez faire. La place de Madame de Pompadour est vacante. C'est à vous de la prendre.
Mais d'où vient cette femme?
Née parmi le peuple, célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l'éclat de ses débauches.
Alors c'était ça, Jeanne de Beaubernier! C'était ça, la belle et pure jeune fille!
À mort! À mort, la du Barry!
Après tout, le monde est une plaisante comédie. Et je ne vois pas pourquoi une jolie femme n'y jouerait pas le premier rôle.
Le récit débute au musée du Louvre, dans l'aile Richelieu. Les grandes fenêtres donnent sur la rue de Rivoli. Et on trouve là toute une collection de sculptures qui vont du Moyen-Âge au XIXe siècle. Une galerie de personnages célèbres ou inconnus. Des portraits gravés dans le marbre, inaltérables, immortels. Et en mai dernier, Martine Abbat, notre reporter, arpentait cette aile du Louvre avec un but bien précis.
Alors on va aller rencontrer le buste de Jeanne du Barry.
Elle avait donc pris rendez-vous avec un conservateur, fin connaisseur d'un sculpteur.
Alors je suis Guilhem Scherf, je suis conservateur général au département des sculptures, spécialiste du XVIIIe siècle, et j'ai organisé il y a 20 ans à peu près une exposition sur le sculpteur Augustin Pajoux, et une de ses œuvres les plus célèbres est le buste de la comtesse du Barry.
Et pourquoi elle est célèbre ?
Elle est très célèbre parce qu'elle a été montrée au salon de 1773, elle a été sans doute commandée par Madame du Barry en 1770. Et à l'époque, Augustin Pajoux était célèbre à la cour parce que lui et son atelier ont décoré l'Opéra Royal de Versailles qui a été inauguré lors du mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette. Donc une œuvre extrêmement vue, très appréciée et encore superbe aujourd'hui. Donc Pajoux était en haut du panier, si je puis dire, parmi les sculpteurs du roi. Et Madame du Barry, qui était un peu la rivale de Marie-Antoinette, a voulu soigner son image, a commandé des bustes à la manufacture de Sèvres, des petits biscuits absolument ravissants, qui ont été exécutés à son image. Elle était extrêmement soucieuse de son apparence physique, hein, puisque c'était le lien évident avec Louis XV, et elle était soucieuse que son image soit reproduite au mieux. Et elle était notamment très soucieuse de sa coiffure. On a des textes, on a beaucoup de documents à ce sujet. Et elle a voulu vraiment demander aux artistes de soigner sa coiffure et de la montrer avec différentes sortes de coiffures. De telle sorte qu'on a des petits biscuits de Sèvres qui la représentent avec des coiffures différentes. Et l'apogée a été le buste en marbre, un buste en marbre magnifique qui est aujourd'hui au Louvre, qui fut montré en 1773. Et Voltaire a eu un mot merveilleux en disant que c'était un buste fait pour les dieux.
C'est à ma figure seule, je le sais, que je dois mon élévation.
En 1773, Jeanne du Barry était la favorite du roi Louis XV à Versailles depuis 4 ans déjà. Et ce somptueux buste en marbre venait asseoir sa position.
Bon, Voltaire est un peu courtisan, bien sûr, mais il s'est exclamé devant la beauté assez phénoménale de cette figure de marbre qui reproduisait la très belle beauté sensuelle de Madame du Barry.
Donc c'est elle, là ?
Oui, c'est elle.
Elle est extrêmement belle. Quand vous dites sensuelle, c'est effectivement, elle est très pulpeuse en fait. Elle a une poitrine assez généreuse.
Oui, et puis surtout, donc là, ce que je vous disais à propos de sa coiffure, vous voyez comment Pajoux a représenté sa coiffure, ses nattes, avec notamment la natte gauche qui effleure l'épaule dénudée.
Donc il y a
un contraste entre les cheveux et la chair et la chair pulpeuse. Et puis c'est surtout le costume qui est tout à fait étonnant, car Madame du Barry n'est pas représentée avec un costume contemporain, n'est pas non plus représentée vraiment à l'antique. C'est un costume de fantaisie, mais qui est presque un déshabillé. On sent que l'étoffe va bientôt tomber et va dévoiler ce qu'on disait au XVIIIe, sa gorge.
C'est ça, elle est au bord de dévoiler un sein, le sein gauche.
Exactement.
Le prince Charles-Joseph de Ligne, dans ses mémoires, 1809. Madame du Barry est grande, bien faite, blonde à ravir, front dégagé, beaux yeux, sourcils à l'avenant, visage ovale, avec des petits signes sur la joue pour la rendre piquante comme pas d'autre, bouche au rire leste, peau fine et poitrine à contrarier le monde.
Représenter Madame du Barry avec une sorte de déshabillé tellement sensuel qui découpe les seins, représenter son épaule nue avec juste un drapé qui souligne la rondeur de l'épaule, les quelques plis de la poitrine, ça c'est quand même une très grande audace. Et en parallèle, la montrer aussi comme une déesse presque inaccessible, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit accueillante et frivole.
Non.
Elle a un port altier. Elle a un très long cou, le front est dégagé, elle a un maintien de déesse, mais une déesse extrêmement attrayante et sensuelle. Donc il y a une sorte de contraste entre...
Un chaud-froid.
Oui, c'est ça, un chaud-froid. Elle dit quand même patouche. Enfin, je veux dire, je suis sensuelle, je montre mes appâts, mais enfin bon, justement, comme disait Voltaire, je suis faite pour le roi.
Alors, elle a un nez...
Aquilin, comme on disait
aquilin.
À l'époque. Mais vous voyez comment Pajou, qui est un expert dans la taille du marbre, a parfaitement détaillé toutes les nattes, les mèches de cheveux. C'est une coiffure extrêmement sophistiquée, très, très élaborée. C'est un portrait d'apparat, un portrait absolument somptueux, qui était très remarqué au salon de 1773, donc un an avant la mort de Louis XV. Donc en fait, un an avant la disgrâce de Madame du Barry, qui a dû partir fissa de Versailles dès la fin de Louis XV, elle est à l'apogée de son règne, et ce buste était censé montrer son apogée aux yeux de tous, puisque le salon au Louvre était ouvert à tout le monde. Il était gratuit, et tous les Français, les Parisiens, les étrangers pouvaient aller visiter le salon du Louvre et donc admirer notamment cette œuvre. Donc elle est à l'apogée, et son buste est évidemment remarqué par tout le monde.
Comment cette jeune femme, aux origines sociales si nébuleuses, est-elle parvenue jusqu'au sommet de la monarchie française? Eh bien, voici la folle ascension de Marie-Jeanne Bécu, devenue comtesse du Barry.
Entrez, madame, entrez dans votre gloire. Le roi vous attend.
Dans la série Les Grandes Conférences, nous vous proposons d'écouter en nouvelle diffusion Madame du Barry.
Le 11 mars 1970, sur la deuxième chaîne, les dossiers de l'écran ont programmé une soirée spéciale consacrée à Jeanne du Barry.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Le journaliste Alain Jérôme commence par rappeler aux téléspectateurs quelques éléments biographiques communément admis.
Le 19 août 1743 naissait en Champagne, dans une localité déjà célèbre, puisqu'il s'agissait de Vaucouleurs, une petite fille. Une petite fille à qui sa nourrice aurait, dit-on, fait la prédiction suivante. « Tu seras, lui dit sa nourrice, aimée, choyée et enviée comme une reine. » Et puis le visage de la nourrice s'assombrit quelque peu et elle dit « Je vois du rouge partout, je vois des ruisseaux de sang qui coulent sur les pavés du roi. » Et puis j'entends aussi des supplications, des cris affreux. Et puis elle hésite encore et elle dit, et puis tout est silence. Eh bien, cette prédiction extraordinaire, cette vision prémonitoire résume parfaitement le destin de cette petite fille. Cette petite fille qui s'appelait Jeanne Bécu et qui est beaucoup plus connue de vous et de l'histoire sous le nom de Madame du Barry.
Donc, Jeanne Bécu serait née le 19 août. 1743 à Vaucouleurs en Lorraine. C'est ce qu'affirment toutes les biographies depuis deux siècles. Or, d'après la nouvelle enquête de l'historien Emmanuel de Varesquiel, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas.
Elle est née à Albenga en Italie en 1745 à l'occasion de ce qu'on appelait la guerre de succession d'Autriche. Dans les fourgons du maréchal de Maillebois, qui commandait le corps expéditionnaire français contre le roi de Sardaigne et les Autrichiens. Et Maillebois entre en Italie par la côte à partir de Nice et s'arrête, bombardé par les Anglais sur mer, s'arrête à Albenga, où l'on organise les fourrages de l'armée et les réserves de l'armée. Et Maillebois s'est octroyé à son service, précisément en ce qui concerne l'organisation matérielle de son armée, les services d'un munitionnaire, ce qu'on appelait des munitionnaires aux armées, qui s'appelle Claude Billard du Monceau.
Un munitionnaire sous l'Ancien Régime, c'était un agent chargé de fournir les vivres aux soldats lors des campagnes militaires. Et c'était le cas de ce Claude Billard du Monceau.
Et Claude Billard du Monceau est probablement, et même très certainement, le père de Jeanne du Barry. On lui a attribuer des pères de fantaisie qui sortent tout droit de la littérature érotique du XVIIIe, et en particulier à un moine défroqué qu'on a appelé le frère Ange Gomard, qui n'a jamais existé, sinon dans l'imagination et les fantasmes des pamphlétaires de la fin du XVIIIe. On l'a fait naître d'un moine défroqué et on l'a fera coucher avec un évêque pour la première fois de sa vie. Comme ça, les choses sont parfaites. Et donc, ce billard du Monceau, comme très très souvent au XVIIIe, la société du XVIIIe siècle est faite en grande partie d'illégitimité et de naissance illégitime. Et l'illégitimité est un élément essentiel dans la vie de Jeanne Dubarry, parce que cette illégitimité va la poursuivre. L'illégitimité au XVIIIe, c'est une tâche très profonde. C'est la bâtardise, pour utiliser l'expression du moment, et dans la littérature et dans la vie sociale, et surtout lorsqu'elle s'exerce ou lorsqu'elle est pratiquée dans les milieux les plus modestes. On s'arrange toujours du côté de l'aristocratie et des élites. Les pères officiels endossent la naissance illégitime des enfants, mais pas dans les milieux les plus modestes. Il se trouve que ce billard du Monceau, qui s'occupe donc de l'ensemble des questions matérielles de cette armée du maréchal de Maillebois, a pour maîtresse peut-être sa lingère, peut-être sa cuisinière, une très jolie femme, jeune, qui s'appelle Anne Bécu.
Anne Bécu, la mère de Jeanne, était une femme d'origine très modeste. Née en 1713, à Vaucouleurs, en Lorraine, Anne Bécu est issue de la domesticité. Et en 1745, selon Emmanuel de Varesquiel, elle a fait le choix de suivre l'armée française en Italie en tant que cuisinière.
Et donc cette Anne Bécu était la maîtresse de Claude Billard du Monceau, qui est un personnage considérable. C'est un des grands financiers de la seconde moitié du XVIIIe, c'est un receveur général de l'hôtel de ville de Paris. C'est-à-dire que c'est lui qui organise la distribution des rentes aux actionnaires et aux rentiers de l'hôtel de ville, mais il est également munitionnaire aux armées, et c'est ainsi qu'il va s'engager dans cette campagne en Italie, dans le nord de l'Italie. Il est accompagné par un curieux personnage dont les mémoires ont été publiées de façon posthume et ont été peu lues, qui s'appelle Pierre Grollet. Et ce Pierre Grollet raconte son arrivée en Italie, son arrivée à Albenga, et relate une scène tout à fait extraordinaire d'un baptême qui a lieu dans une des églises d'Albenga, où Claude Billard du Monceau est le parrain d'une petite fille dont il ne donne pas le nom, sinon les initiales, DB, pour, vous l'aurez deviné, pour Dubarry, et dont il dit que le père est un père de substitution, grêlé de petites véroles, tel qu'il le décrit, et en récompense de ce baptême, aurait été nommé garde-magasin d'un des magasins de fourrage de l'armée du roi de France à Albenga, puis ensuite en Corse. La façon dont ce Pierre Grollet raconte ce baptême est absolument typique des pères de substitution et du baptême d'une fille illégitime dont le père est le parrain. En fait, le père joue les protecteurs et les parrains, et donc se produit au baptême sans pour autant avouer être le père, parce qu'il s'agit de la naissance illégitime d'une fille issue d'un côté d'un très riche financier de la fin du XVIIIe siècle, ou du milieu du XVIIIe siècle, et de l'autre d'une lingère ou d'une cuisinière. Donc on ne révèle rien. Et au fond, ce secret initial, ce secret des origines, sera et restera le secret de toute la vie de Jeanne. Au fond, elle va porter son illégitimité, et le fait qu'elle a été, dans un certain sens, non seulement pas reconnue par son père, mais probablement désavouée à un certain moment de sa vie par son père, explique en grande partie sa personnalité, sa psychologie, les reconstructions successives qui ont été les siennes, et notamment cette espèce d'obsession familiale, comme si elle avait passé une grande partie de sa vie à reconstituer une famille qu'elle n'a jamais eue. C'est une enfant pas abandonnée, mais presque. Et c'est une enfant illégitime. Si on ne comprend pas et si on ne met pas ça en avant dès le départ, en tout cas, elle naît en juin 1745 dans cette petite ville d'Albenga. C'est de l'autre côté de la frontière, hein. C'est entre Vintimille et Gênes. C'est une très jolie ville d'ailleurs.
Récapitulons. D'après la nouvelle biographie d'Emmanuel de Varesquiel, Jeanne Dubarry n'est sans doute pas née à Vaucouleurs en 1743, mais probablement en Italie, en 1745. et elle n'est pas la fille d'un curé paillard et ivrogne, comme on le répète souvent, mais l'enfant d'un riche financier du XVIIIe siècle, ce qui change considérablement la donne. Cette fille illégitime, bâtarde donc, passe les premières années de sa vie à Paris. On va y revenir. Mais voyons d'abord à quoi ressemble le royaume de France quand elle vient au monde.
Vous allez entendre maintenant, en nouvelle diffusion, une causerie sur Louis XV, le bien-aimé.
Juin 1725, le roi Louis XV s'installe définitivement à Versailles. Doué d'une rare beauté, d'une grande élégance et d'un charme infini, il a conquis la France. Les femmes en raffolent et le peuple l'adore. On l'appelle le bien-aimé.
Nous sommes sous le règne de Louis XV depuis 1715. Il a succédé à Louis XIV, son arrière-grand-père. Et au milieu des années 1740, quand naît Jeanne Bécu, Louis XV a 35 ans et il règne depuis 30 ans. Et en 1745, c'est un roi en guerre, puisque la France est engagée dans le conflit de la succession d'Autriche.
Voyez ce que Sa Majesté m'a fait porter. Et écoutez ce qu'elle y a écrit de sa main. Du champ de bataille de Fontenoy, ce 11 mai à 2h30. Les ennemis nous ont attaqués ce matin à 5h. Ils ont été bien battus.
Une guerre longue et meurtrière, avec quel impact sur le royaume ?
Alors, incontestablement, la France, dans ces années-là, reste la première puissance européenne, et si j'ose dire, mondiale.
Cécile Berly, historienne.
Comme je dis souvent, le 18e siècle, c'est le siècle français. Voilà. Donc il y a évidemment toujours ce très fort rayonnement, même si bien sûr il y a des forces politiques et militaires qui sont de plus en plus importantes. Je pense évidemment à la Prusse, à la Russie et surtout bien sûr à l'Angleterre. Au demeurant, la France reste ce pays que l'on admire, que l'on copie et que l'on ne va pas cesser de copier durant encore plusieurs décennies. La monarchie française, la monarchie de Louis XV, reste aussi une monarchie fortement admirée. C'est-à-dire que dans ces années-là, il reste, on a un peu tendance à l'oublier, le bien-aimé. C'est-à-dire ce roi qui est profondément admiré, qui est profondément aimé, respecté. Très respecté, et donc il est un souverain, on peut le dire, qui reste largement populaire, vraiment. Ça, c'est important de le dire. Louis XV a été un roi pendant une assez grande partie de son règne, qui a été long, hein, tout de même 59 années, qui a été très longtemps populaire. Alors bien sûr, au moment de cette guerre de succession d'Autriche, il y a eu ce fameux épisode de Metz, au cours duquel eh bien le roi a failli mourir. C'est de là d'ailleurs que l'on va commencer à l'appeler Louis le bien-aimé. Les Français ont eu sincèrement très peur de perdre leur souverain et donc de perdre quelque part leur père. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que Louis XV incarne parfaitement en ces années-là, en ces décennies, eh bien, toute la superbe de la royauté française en Europe.
Louis XV, le bien-aimé, est-ce que dans ces années-là, Louis XV est encore un roi très chrétien ?
Louis XV a toujours été un roi extrêmement chrétien. Louis XV est un roi qui vit, il faut le dire simplement, dans une sorte de mortification permanente. On a un peu tendance à oublier que le roi a longtemps été fidèle à sa femme, qu'il a aimé même très sincèrement. Donc évidemment, c'est très loin de l'image que l'on a du roi libertin, décadent, etc. Mais longtemps, Louis XV a été un roi extrêmement fidèle, très amoureux de sa femme, ce qui était tout à fait non ordinaire pour l'époque. Et Louis XV, commence à avoir des maîtresses, puis des favorites, c'est aussi parce que son couple qu'il représente avec Marie Lesisca est aussi un couple atypique du point de vue de l'histoire de la monarchie, puisque sa femme a eu énormément d'enfants, essentiellement des filles. Et si j'ose dire, de toute cette progéniture, il ne sait absolument pas ce qu'il va pouvoir en faire d'un point de vue politique et diplomatique. Donc, c'est un roi qui, en ces années-là, est aussi une figure exemplaire parce qu'il a eu une descendance nombreuse.
La Vierge que j'ai priée à Notre-Dame et à Sainte-Geneviève à exaucer mes vœux. Donner enfin à votre majesté un dauphin.
La France vous en fait compliment.
Revenons à la petite Jeanne Bécu. Après sa naissance en Italie, elle s'installe à Paris avec sa mère. Et son père ne doit pas être très loin, puisque Claude Billard du Monceau est receveur général à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors, que dire de son enfance ?
On a très très peu de choses sur son enfance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été mise en pension dans un couvent qui se trouve un peu en dessous du Panthéon et dans une maison qui existe encore, qui s'appelait le couvent des Dames de Saint-Or.
L'historien Emmanuel de Varesquiel.
Qui acceptait plutôt des filles de ce qu'on appelait des filles de condition, c'est-à-dire de milieux infiniment moins modestes que le milieu dont est originaire sa mère, et que certainement cette pension a été payée par son père, Claude Billard du Monceau. Et il est probable que les 6 années qu'elle va passer à Saint-Or, dans des conditions de très grande, je dirais, très strictes, de très grande discipline, l'ont formée, qui sont à la fois des années de discipline et en même temps des années de très grande solitude. Je pense qu'il faut mesurer la solitude de l'enfance de cette fille, qui probablement n'a pas été aimée de sa mère et que son père n'a jamais reconnue, tout en subvenant sans passer pour autant par un contrat et par, des écrits officiels, tout en subvenant, en tout cas, au commencement de sa vie et en finançant ses années de couvent et de formation, d'éducation à Saint-Or, qui est une éducation très classique dans ces milieux de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une éducation à la fois de maintien, et je dirais à l'usage des jeunes filles, donc dessin, peinture, musique, couture, et en même temps, de façon assez sommaire, on verra que sa formation aux arts et à la littérature est plus tardive. Le minimum syndical nécessaire aux jeunes filles de cette époque-là, s'agissant de la littérature et de l'écrit. On a fait d'elle une fille qui ne savait même pas écrire son nom, c'est évidemment faux. Quand on lit les quelques lettres que l'on possède d'elle, elle écrivait magnifiquement. Et je pense que cette aptitude à l'écriture lui vient de ses années.
Lettre de Jeanne du Barry à Marie-Antoinette, 1789.
Ces jeunes blessés que j'ai recueillis n'ont d'autre regret que de n'être point morts avec leurs camarades pour une princesse aussi parfaite, aussi digne de tous les hommages que l'est assurément votre majesté. Louvecienne est à vous, madame. N'est-ce pas votre bienveillance et votre bonté qui me l'ont rendue? Le feu roi, par une sorte de pressentiment, me força d'accepter 1000 objets précieux avant de m'éloigner de sa personne. Je vous offre ce trésor, madame, de votre majesté la très fidèle servante et sujette, la comtesse du Barry.
Ces années de couvent à Saint-Or, comment est-ce que je les ai découvertes ? Tout simplement parce que le confesseur de Claude Billard du Monceau s'appelait l'abbé Grisel et que j'ai découvert que Grisel était le père supérieur, dans un certain sens, le père confesseur de ce couvent de Saint-Or.
A priori, Jeanne Bécu sort de ce couvent réputé vers 1758. Elle a 13 ans et là, pour un temps, on perd un peu sa trace.
Alors, on a des sources qui sont peu nombreuses, donc évidemment, on est un peu obligé de spéculer et un peu d'imaginer. A priori, elle sort du couvent, elle n'a rien. Elle est, on peut le dire, largement livrée à elle-même. Elle va vivre manifestement de petits travaux, par exemple, vendre des rubans, vendre de menus objets dans les rues de Paris. Mais là, évidemment, c'est très confus. Donc, effectivement, c'est une vie pour le moins instable. Il y a très peu, évidemment, de perspectives d'avenir. Mais si j'ose dire, elle est comme des milliers et des milliers de femmes qui sont nées sans rien, qui sont d'origine sociale extrêmement modeste, voire confuse. Et donc, en fait, manifestement, très tôt, elle va fréquenter ce qu'on appelle les milieux interlopes.
Interlope, autrement dit, qui n'est pas légal.
Disons que Jeanne fréquente des milieux suspects et surveillés par la police. Et c'est là qu'elle réapparaît dans les archives.
Et on ne la retrouve qu'en 1764-65, par l'intermédiaire des rapports de commissaires de police, et notamment d'un personnage haut en couleur qui s'appelle l'inspecteur Marais, qui travaillait pour le lieutenant de police de Paris au service de Louis XV, qui était Monsieur de Sartine. Et elle apparaît pour la première fois sous un nom d'emprunt, qui est Beauvarnier, en 1764, aux côtés d'un personnage absolument haut en couleur et qui fait un peu penser au personnage principal du film éponyme Barry Lyndon et qui s'appelle Jean Dubarry.
On va revenir, évidemment, sur ce Jean Dubarry, personnage essentiel dans le destin peu commun de Jeanne. Mais d'abord, évoquons ce milieu de la galanterie dans le Paris des années 1760.
Alors déjà, cet univers de la galanterie au XVIIIe, dire qu'il est extrêmement commun, c'est important de le dire. Hein. En moyenne, on compte à peu près, si je me concentre sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on compte dans les rues de Paris au moins 30 000 prostituées. Ça veut dire que la prostitution est quelque chose qui est tout à fait ordinaire dans cette vie sociale du XVIIIe. Les clients sont évidemment tout puissants. Pour beaucoup, ils sont souvent des puissants, c'est-à-dire qu'ils cumulent richesse, pouvoir, présence importante à la cour de France. Et puis, gravitent aussi dans ce milieu interlope, eh bien, les gens qui jouent à des jeux d'argent, des sommes souvent assez folles. Il va y avoir aussi des figures qui sont, à mon sens, typiquement 18e, ce que l'on appelle la figure des charlatans. Alors le mage, le magicien, l'aventurier, on a des figures, un Cagliostro, un Casanova, ce sont des figures qui sont en fait des archétypes au XVIIIe et qui évoluent toujours soit au centre, soit à la marge de ces milieux interlopes. Et puis évidemment, il y a aussi, je crois que ce n'est pas avoir une logique de pathos, mais c'est aussi un monde où il y a beaucoup de souffrance, c'est-à-dire qu'en même temps on s'entretient dans une forme de légèreté assez malsaine, mais il y a aussi beaucoup de souffrance parce que on oublie, du moins on ne réfléchit pas, à mon sens, assez, aux conditions de vie, pour ne pas dire de survie, de ces femmes et aussi quand même de certains hommes qui se prostituent ou qui sont prostitués dans des conditions absolument épouvantables. Donc c'est évidemment un milieu sordide où il faut quand même avoir une sacrée force de caractère pour ne pas se laisser détruire.
C'est donc dans ces milieux de la nuit, sans doute en 1764, que Jeanne Bécu fait une rencontre cruciale.
Je rencontrai Jean Dubarry, alors connu sous le nom de Comte de Serre. Il n'était plus de la première jeunesse, il pouvait avoir de 44 à 45 ans. Et avec sa mauvaise santé et sa mauvaise humeur continuelle, on lui aurait donné davantage.
Alors, qui est-il, ce Jean Dubarry, Emmanuel Varesquiel?
Alors, les Dubarry, c'est une famille de petite noblesse du sud-ouest de la France, originaire des environs de Toulouse, d'une petite ville qui existe, qui s'appelle Lévignac, peu fortunée, très orgueilleuse. Jean Dubarry a deux frères, deux sœurs, et son père était capitaine de régiment dans les armées du roi. Il connaît une carrière sous le règne de Louis XIV, qui est typiquement la carrière des petits officiers de fortune de province, de noblesse provinciale, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Il va finir par obtenir la Croix de Saint-Louis, qui est un peu la Légion d'honneur de l'Ancien Régime, si vous voulez, et il finit sa carrière comme capitaine, alors qu'on sait que ces beaux messieurs de la cour, pour reprendre une expression de l'époque, devenaient colonels de régiment à 20 ans. Donc, une carrière et une toute petite fortune durement achetée à coups de bataille et de blessures, et une famille qui a l'orgueil de son nom, mais qui n'en a pas les moyens. Et au fond, Jean du Barry, qui est l'aîné des enfants de cet Antoine du Barry, de ce capitaine de régiment de l'époque de Louis XIV, va très très vite prendre des allures de Rastignac, pour reprendre un des personnages de la Comédie humaine de Balzac, à Nous deux Paris. Jean du Barry est quelqu'un d'incroyablement astucieux, malin, fantasque, mégalomane, incapable et courant toujours après l'argent, incapable de calculer quoi que ce soit, menteur, avec un bagou extraordinaire, traînant derrière lui son accent languedocien que plusieurs de ses contemporains relèveront, comme le prince de Ligne qui l'a très bien connu et qui disait de lui que c'était le coquin le plus spirituel de Paris. Il naît à Lévignac, il fait ses études de droit, il est un avocat sans cause à Toulouse où il s'ennuie très rapidement et où il a, pense-t-il, une vie qu'il ne mérite pas. Et il décide très rapidement de monter à la capitale et là, il va s'essayer dans un certain nombre de domaines. Je reviens d'ailleurs à Barry Lyndon, dans la diplomatie, où probablement, pour cause de bavardage intempestif et peut-être d'excès, et le jeu et les femmes, il va être démis de ses fonctions. Et au fond, la fonction dans laquelle il va exceller, c'est d'ouvrir dans un hôtel particulier, pas du tout un bouge, extrêmement élégant, dans le centre de Paris, une maison de jeu, où il attire pas n'importe quel joueur, mais des grands officiers de cour, mais des fermiers généraux, mais des receveurs généraux des finances du type de Claude Billard du Monceau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour les attirer, ils s'entourent de jolies femmes, qui sont en général, et pour la plupart, l'équivalent de nos vedettes de cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes actrices de l'opéra, du théâtre français, du théâtre italien, qui sont des vedettes absolues. Les Mademoiselles Arnaud, les Dubois sont des personnages considérables. Les Guimard, Mademoiselle Guimard, qui se fait construire un hôtel particulier absolument splendidissime à Paris par Ledoux. Et donc voilà, et Jeanne rencontre ce Jean du Barry. Comment ? On ne le sait pas.
La légende sulfureuse raconte que leur rencontre a eu lieu dans une maison close, tenue par Madame Gourdan.
Alors voyons, une jolie fille comme vous ne peut pas rester toute sa vie demoiselle de boutique. Il faut profiter des bienfaits dont la nature vous a comblé. Avez-vous déjà eu des amants ?
Tiens, bien sûr, oh, j'en ai même eu plusieurs.
Comment vous appelez-vous ?
Jeanne Rançon.
Ici, vous vous appellerez l'ange. C'est plus suggestif.
Mais a priori, c'est faux. Jeanne n'aurait jamais fréquenté les bordels de bas étage. La source unique et précieuse que nous possédons, ce sont les rapports de l'inspecteur de police Louis Marais, qui nous informe que la première apparition publique de Mademoiselle Vaubernier, autrement dit Jeanne, a eu lieu à la Comédie italienne le 14 décembre 1764, où elle est au bras de Jean-Baptiste du Barry.
Dès notre première entrevue, il prit sur moi un ascendant extraordinaire. J'ai beau chercher à m'en défendre, j'étais réellement sous le charme.
Alors Jean-Baptiste du Barry, c'est une figure haute en couleur. Bon, déjà, il est gascon d'origine. Ça veut dire que dans ce Paris du XVIIIe, ça veut dire que c'est une figure qui est forcément exotique. C'est pour ça aussi qu'elle plaît. C'est un homme qui, manifestement, quand il rencontre Jeanne, en tombe amoureux. Lui aussi. Mais très vite, évidemment, il va se rendre compte qu'il va pouvoir, eh bien, gagner de véritables fortunes en prostituant cette femme. Parce qu'il faut le dire, Jean-Baptiste du Barry, c'est avant tout un proxénète. C'est un homme qui avait des ambitions politiques. C'est peut-être pas le mot exact. En tout cas, il avait des ambitions de devenir un représentant de l'État influent. Et donc, il va vouloir gagner beaucoup d'argent en prostituant, entre autres, Jeanne, avec laquelle par ailleurs, il va vivre durant plusieurs années.
Et dans ses rapports de police, l'inspecteur Louis Marais affirme le 27 septembre 1765 que Jean du Barry fait mener à Jeanne une vie infâme. C'est le mot qu'il choisit, infâme. Et il ajoute que du Barry cherche à la brocanter avantageusement. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, brocanter, ça veut dire en fait que Jean-Baptiste du Barry fait travailler cette femme de façon absolument infâme. J'ai employé une expression qui est laide, c'est sa vache à lait. C'est-à-dire que elle doit accepter des conditions de travail qui sont
infamante. C'est-à-dire qu'elle enchaîne client sur client, et j'insiste, les clients choisis par Jean-Baptiste du Barry pour Jeanne, ce sont des hommes infiniment riches, donc qui payent très cher. Et ça veut dire aussi que cette femme, un temps, elle a aussi des problèmes de santé, manifestement qui ne relèvent pas de la maladie vénérienne, mais tout simplement parce qu'elle est épuisée par son rythme de travail auprès de ses puissants.
Dans un de ses rapports, en date du 6 octobre 1765, l'inspecteur Marais nous précise que la demoiselle Vaubernier, Jeanne donc, a enfin quitté le sieur du Barry, car elle s'est trouvée fatiguée, ajoute-t-il, de servir d'appât à ses parties de jeu clandestins. Donc, il y a eu séparation entre Jeanne Bécu et son souteneur, Jean du Barry. Mais ça ne dure pas, car peut-être ont-ils trop besoin l'un de l'autre. Jeanne, dans ce monde d'hommes, n'avait sans doute pas d'autre choix. Dans ses carnets, Louis Marais note que 3 mois plus tard, Jeanne est de retour dans le salon de Jean du Barry. Peut-être ont-ils passé un nouvel accord, avec sans doute une autre manière de fonctionner.
On y voyait beaucoup de monde. On pouvait y former des liaisons utiles.
Il se peut que désormais, Jeanne puisse choisir elle-même ses clients.
On y soupait tous les soirs, on y dansait souvent. J'étais là dans mon élément.
D'abord, revenons à ce salon de jeu ouvert par Jean du Barry en plein Paris.
Joignez-vous à notre partie, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
À quoi ça ressemblait ?
Alors il faut imaginer certainement, alors non pas des bas-fonds hein, comme on pourrait le croire, mais plutôt, on va dire, un salon de jeu installé dans un hôtel particulier.
Mathieu Davigna, historien.
Où se donnent rendez-vous certainement beaucoup d'aristocrates de la cour, puisque la vraie vie se passe non plus à Versailles, mais plutôt à Paris. Et on sait que le jeu a quelque chose d'excitant pour tous ces aristocrates qui s'ennuient un petit peu peut-être d'aller à Versailles. Donc on est plutôt dans des endroits dont a totalement connaissance la police, mais qui sont officiellement interdits.
Alors on y joue, on attire des grands seigneurs qui veulent s'amuser. Pour les attirer un peu plus, Jean du Barry et certains autres sans doute placent dans ces salons de jeu des jeunes femmes qu'on pourrait appeler des courtisanes. Qui sont-elles ces jeunes femmes dans les salons de jeu ?
Alors ces jeunes femmes, ce sont des femmes qu'on pourrait appeler des demi-mondaines, hein, des semi-mondaines. Ce sont des belles femmes qui encouragent ces messieurs à jouer et plus si affinité, hein. C'est-à-dire que Jean du Barry, c'est un intrigant. Il a chez lui cette demoiselle Jeanne Bécu, dont il a peut-être déjà pressenti l'ascendant qu'elle pouvait avoir sur des personnages comme le duc de Richelieu, et même peut-être au-delà. Donc on est dans des endroits, je dirais pas malfamés. On appelait Jean du Barry le roué. C'est quelqu'un qui se fait plaisir, qui aime le plaisir, en l'occurrence le plaisir sexuel, mais qui est assez courant, en fait, hein, lorsqu'on lit les rapports de police de l'époque. Finalement, au-delà ce qu'on pourrait appeler des bordels, hein, ou des maisons closes de la Gourdon ou de la Brisseau, etc., on a des lieux de seigneurs tels que Jean du Barry, alors des petits seigneurs, hein, mais qui reçoivent un certain nombre de monde, parce que ça ne se fait plus à Versailles, ça ne se fait pas à Versailles, que la vie telle qu'on l'entend et où on se fait plaisir, c'est à Paris et non plus à Versailles.
Dans le Paris de ces années-là, Jean du Barry est donc surnommé le roué, c'est-à-dire un roublard avec un esprit retors.
Jean est un des meilleurs brouilleurs de cartes sur la place de Paris.
Oh mon Dieu, que faut-il entendre ?
Rassurez-vous, peu de gens sans doute, il est très très adroit. J'ajoute que son adresse le sert en d'autres occasions.
Mais elle vous a servi aussi, si je suis bien informée.
Oh, je ne le nie pas. Il m'a donné une vie agréable. Ce n'était pas contre rien.
Un être rusé qui savait fouetter les désirs en se servant, entre autres, des charmes de Jeanne Bécu. Mais qui n'était pas seulement ce qu'on a voulu faire d'elle par la suite.
Elle n'a jamais été au bordel, contrairement à ce que la légende noire voudra faire d'elle. Elle n'a jamais été dans la maison close de la Gourdan, qui était une des maquerelles les plus réputées de Paris à l'époque. Elle s'installe et elle devient la maîtresse de maison chez Jean du Barry. Elle préside à cette société très très haut de gamme, hein, qui réunit une partie des élites du royaume à l'époque. Elle choisit ses amants, en général, quelquefois par sentiment, souvent par intérêt. Cette femme, qui a un charme absolu et une intelligence absolue, était aussi une grande duplice. Elle était capable de mentir du premier jet sans aucun problème. Sa naissance a été un mensonge et elle a pratiqué le mensonge très naturellement, comme une sorte de rapport de cause à effet entre les deux.
Ayez en tête que dans ce salon de jeu de Jean du Barry, on croise tout le gratin de la noblesse française.
Oui, là, on a vraiment du très, très haut niveau. Hein. C'est-à-dire qu'il a su attirer à lui les grands seigneurs et celui qui le protège lui-même, c'est le maréchal-duc de Richelieu. Donc, le maréchal-duc de Richelieu est un personnage assez emblématique. Hein. Il est déjà très âgé. Il est né en 1696. Et c'est quelqu'un qui va être assez proche de Louis XV. Ça va être son âme damnée, hein, on va dire son mauvais génie, en quelque sorte, dans les fantasmes que pouvait avoir Louis XV pour les femmes.
À propos, monsieur le maréchal, quel âge avez-vous ?
1574, maîtresse. Si.
Vous ne changerez donc jamais ?
Si, votre majesté, de maîtresse.
Et c'est quelqu'un qui a toute l'oreille du roi. Donc il va amener avec lui Sainte-Foy, donc, qui est un intendant de marine, alors qui n'est pas un grand seigneur, mais il va y avoir le marquis de Villeroy, il va y avoir le comte de Fitzjames, etc. Donc on a du très très haut niveau dans ce salon. Et c'est vrai que Jean du Barry, qui n'est pas forcément le bienvenu à la cour, arrive à attirer chez lui des grands seigneurs très proches du souverain.
Ce qui est important, Mathieu Davignas, c'est que en effet, à côtoyer ces grands seigneurs de la cour, Jeanne du Barry, qui est une galante, qui est une courtisane de ce salon Jean du Barry, elle observe, elle absorbe. C'est-à-dire que c'est aussi une école d'apprentissage pour elle.
Oui, elle apprend tout à fait. Alors, elle avait déjà une très très bonne éducation. On sait qu'elle a été très très bien élevée. Et là, elle observe et elle a le langage de la cour. Au contraire de ce qu'on disait de Madame de Pompadour, même si Madame de Pompadour a été très très bien élevée, était dans le monde des financiers, ça restait le monde des financiers. Et donc, le monde des financiers n'est pas le bienvenu à la cour. On moquait encore, même du temps de sa splendeur, le côté bourgeois de Madame de Pompadour qui employait encore des termes, alors je ne saurais pas les dire, hein, mais qui étaient qualifiés de bourgeois à la cour et donc on la moquait. En revanche, Madame du Barry, elle a le langage de la cour par ses grands seigneurs qui la fréquentent quotidiennement et donc elle absorbe, elle apprend et elle apprend très très bien et très très vite. Et elle va effectivement observer, faire une sorte d'étude comportementale de la cour. Et finalement, effectivement, c'est ce qui va lui permettre d'avoir les codes pour accéder à Versailles.
Si vos talents confirment mes espérances, un grand destin vous est promis. Il se tient chez moi une assemblée brillante de gens de qualité et de beaux esprits qui vous serviront de maîtres et de modèles. Vous apprendrez à leur contact l'art de vivre en société.
Jeanne Bécu, qui entre-temps a changé de nom, comme je vous l'ai dit, s'est appelée Rançon puis Beauvarnier, et Jean du Barry vont s'associer. Les rapports de police du commissaire Marais disent de Jean du Barry qu'elle a exploité sa maîtresse, probablement sa maîtresse de quelques jours, probablement, et peu importe d'ailleurs qu'ils aient couché ou pas couché. Ce qui m'intéresse, moi, c'est à la lumière de sources nouvelles en complément de ces rapports de commissaires de police, c'est de constater que cette rencontre n'a pas été une rencontre qui s'est jouée au détriment de l'un et au profit de l'autre. Ça a été vraiment une association. Jeanne accepte au fond, aux côtés de Jean du Barry, avec lequel elle va très vite prendre ses distances et dont elle va très vite se méfier. Elle va accepter, au fond, de mélanger le charme et les affaires. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Et elle va choisir ses amants. Elle va avoir quelqu'un, on lui a prêté infiniment plus d'amants qu'elle n'en a eu. Elle va les choisir, et elle va les choisir toujours dans les mêmes milieux, c'est-à-dire la haute finance parisienne, la ferme générale, et les intendants de la marine. Les milieux de la marine sont des milieux qu'elle connaît depuis le début et auxquels elle va rester fidèle jusqu'à la fin de ses jours.
Dans les méandres de ce salon mondain,
il y avait sans doute comme une connivence entre deux, entre Jeanne et Jean du Barry.
Je peux m'absenter pendant une heure.
Avec qui?
Le duc de Lauzin.
Naturellement. Quand il aura fini de jouer.
Une complicité entre la courtisane et son souteneur. Pour quelle raison?
Parce qu'il a une ambition qui est évidemment difficile à comprendre avec nos sensibilités. Très vite, il va comprendre que cette femme, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Probablement, en premier lieu, sa beauté. Et l'objectif que va très vite se fixer Jean-Baptiste du Barry, c'est de faire de cette femme une maîtresse du roi Louis XV. Parce que ça, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre. Le lit du roi, tout au long du XVIIIe siècle, est un véritable enjeu de pouvoir. Quand la bourgeoisie, la finance, a réussi à placer, dans les premières années 1744-45, une bourgeoise née Poisson, qui sera anoblie et qu'on l'on connaîtra sous le nom de Madame de Pompadour, c'est une véritable conquête de la bourgeoisie. Ça a été une véritable révolution. Une révolution de palais peut-être, mais une révolution quand même. Et cette bourgeoisie, qui est conquérante tout au long du XVIIIe siècle, a très bien compris que pour avoir le pouvoir, pour partager le pouvoir, pour être au plus haut sommet de ce pouvoir, il fallait à un moment ou à un autre y mettre sa propre créature, c'est-à-dire évidemment une bourgeoise. Et donc Jean-Baptiste du Barry, avec d'autres, parce qu'il n'est pas le seul évidemment à avoir cette compréhension des mécanismes du pouvoir et cette ambition, va vraiment avoir pour objectif de placer Jeanne dans le lit du roi. D'ailleurs, avant Jeanne, il va en avoir une autre qui s'appelle Dorothée, dont évidemment on ne sait absolument rien de satisfaisant. Il était à deux doigts de réussir à placer, comme on dit, sa propre créature dans le lit de Louis XV. Ça a échoué, mais au demeurant, avec Jeanne, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va très bien marcher.
En conclusion de ce premier épisode, retenez bien que si Jeanne Bécu est une fille illégitime, elle n'est pas une enfant de rien. Son père biologique, Claude Billard du Monceau, était un riche financier de Paris et il a sans doute payé son éducation au couvent. On peut même imaginer, et ce n'est qu'une hypothèse, que Billard du Monceau connaissait Jean du Barry et qu'il a peut-être participé à leur rencontre. On n'en sait rien. Par ailleurs, on peut envisager que la mère de Jeanne s'est vite détournée de cette fille naturelle qui est placée en pension chez les sœurs de Notre-Dame de Saint-Or. Le destin d'une orpheline, comme Louis XV, orphelin à l'âge de 2 ans. Et puis, en 1768, alors qu'elle a 25 ans, Jeanne Bécu, mademoiselle Vaubernier, est présentée au premier valet de chambre du roi.
Considérez, je vous prie, le visage de Monsieur Lebel.
Dominique Lebel.
Non mais je vous le demande, messieurs, a-t-il la tête d'un surintendant des plaisirs?
Une vieille relation de Jean du Barry.
Mon cher Lebel, ma fiancée, mademoiselle de Vaubernier, dont je vous ai parlé.
Ah, mes compliments. Pour une fois, vous ne m'aviez pas menti.
Mademoiselle de Vaubernier est encore plus ravissante que le portrait que vous m'en aviez fait.
N'est-ce pas?
Ne restez pas ici, remontez dans votre chambre. Cet endroit n'est pas fait pour les enfants.
Comment Jean du Barry et Jeanne Bécu, grâce au réseau de l'un et à la beauté de l'autre, sont parvenus à s'infiltrer à la cour de Versailles, c'est l'horizon du prochain épisode.
Elle est charmante. Ah.
Où l'avez-vous découverte?
Mais je vous l'ai déjà dit, en Touraine, dans la seigneurie de ses parents.
Parfait, parfait. Depuis 8 jours, je ne fais que parler d'elle au roi, et de telle manière qu'il est maintenant au comble de l'impatience et de la curiosité. Il faut faire vite et jouer serré.
Mais pas de malentendu, Lebel. Nous voulons, ma fiancée et moi, être traités selon notre rang. Il ne s'agit pas de nous chambrer, de nous mettre enceinte et de nous congédier avec une rente de 12 000 livres. Donc comprenez-moi bien, Lebel, la Pompadour est morte, vive la du Barry.
Oui, oui, oui.
Jeanne du Barry, faste et solitude. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Éric L'Ancien. Lecture, Bérangère Varluzel. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, dans le lit du roi. Jeanne du Barry, faste et solitude,
est un podcast original de France Inter.